va voir qu'il y a d'autres choses qui se font dans les EHPAD, plein d'autres choses formidables. Venez me rejoindre, mesdames. Il y a donc aujourd'hui Imen Bellatar, il y a Najat Simmerabet et Zara Rechik. Vous êtes directrice, infirmière coordinatrice et aide-soignante en unité protégée à l'EHPAD tout proche, l'EHPAD Florian Carnot qui est à Antony. Et nous avions envie de vous inviter pour que vous partagiez avec nous votre expérience d'intervention non médicamenteuse en accueil de jour. On en a parlé il y a un instant. Donc les interventions non médicamenteuses, ça se fait aussi en accueil de jour, ici.
Exactement.
À côté de chez soi.
Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc ça se fait aussi en accueil de jour. Donc l'accueil de jour consiste à ce que les résidents viennent qu'en journée, de 9h à 17h, donc, et on prépare des ateliers, on fait les interventions non médicamenteuses lors de l'accueil de jour.
Voilà. Donc vous êtes dans une structure de 104
oui,
résidents.
Nous sommes dans une structure, donc c'est Corian Florian Carnot à Antony. C'est 104 résidents donc en séjour permanent et séjour de répit. Et donc 8 places en accueil de jour.
Les gens viennent de 9h à 17h.
Exactement. Donc ils prennent le petit déjeuner avec nous. Donc ils déjeunent aussi. Il y a des ateliers. Et en fin de journée, ils repartent à 17h après le goûter. Donc il y a pas mal d'activités qui sont présentées. Donc je vais laisser ma collègue vous présenter une journée type.
Super.
Et échanger sur les interventions et avoir aussi le regard, son témoignage de soignante et ce qui est mis en place à l'accueil de jour.
Donc Zara, vous êtes aide-soignante.
Oui, je suis aide-soignante et j'ai suivi une formation d'assistante de soins en gérontologie. Donc, en fait, pour se spécialiser dans la prise en charge des personnes présentant des...
Gardez bien le micro devant vous pour que tout le monde vous entende jusqu'au bout de la salle.
Non.
Alors, donc, ça se passe comment? Les gens arrivent à 9h, c'est leurs proches qui les amènent?
Oui, c'est leurs proches ou bien il y a un transport qui est mis en place pour les emmener. Mais avant cela, j'aimerais bien en fait parler un petit peu des TNM, justement, des thérapies dites non médicamenteuses. Parce que pour moi, en fait, je témoigne que c'est vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Et c'est vrai, ils nous disent tout le temps, c'est juste à un stade léger et modéré. Et moi, je peux vous confirmer que ça marche aussi à un stade sévère de la maladie. J'ai assisté à des réactions, à l'évolution de l'état des résidents. Bien sûr, une évolution positive. Parce que justement, on les stimule. Donc, ces thérapies donc, dites non médicamenteuses, elles sont centrées sur la personne. On renforce les capacités cognitives et motrices. Plus la personne est stimulée, plus elle est réactive, plus elle est présente. Et on essaye d'apaiser les troubles du comportement. On apporte un bien-être et un mieux-être. Et bien sûr, tout ça, c'est avec le soutien de l'aidant. Moi, personnellement, et ainsi que toutes mes collègues, on travaille en triade, soignant, soigné, aidant. Et cela nous aide vraiment à instaurer un climat de confiance. Il y a plus de réceptivité. Les résidents sont plus réceptifs, ils sont plus en confiance quand ils voient que leur fils ou un membre de leur famille y croit, y participe. Du coup, ça apporte vraiment ses fruits et on voit vraiment l'effet positif de ces thérapies.
Quelles sont les activités que
voilà,
vous proposez ?
Voilà, parmi les activités qu'on propose, donc on a le chariot flash. Le chariot flash, en fait, c'est diverses activités à but cognitif. C'est des jeux de société, des jeux de mémoire. Ça peut être... voilà, c'est des activités divertissantes, amusantes, mais surtout personnalisées. Parce que chaque malade, comme les chercheurs l'ont dit tout à l'heure, il ne faut pas généraliser sur tout le monde. On n'a pas, en fait, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'ont pas tous le même vécu, ils n'ont pas tous la même histoire de vie. Donc, elles sont personnalisées et adaptées parce que le but, c'est de renforcer ce qui est encore présent. Donc, on appuie sur ça pour valoriser les personnes, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils s'appuient, pour pallier les déficiences engendrées par les maladies neurodégénératives et de type Alzheimer. Et voilà, donc il y a le chariouflage, il y a les thérapies par médiation animale. Et ce qui fonctionne
vous avez
très,
quoi, un chien
très, un chien, un chat, un cochon d'Inde, un lapin, oui. Donc, parce que là, en fait, l'animal, quand il est présenté à une personne malade, donc, il voit, il n'y a pas de jugement, il y a vraiment cette sincérité. Et comme ces malades, ils n'ont plus cette capacité, enfin, ils n'ont pas, ou elles sont déficitaires, ils s'appuient beaucoup sur leurs sensations. Donc, il y a ce regard, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, donc, il y a toute cette affection, ils laissent libre circuler leurs émotions, donc il y a cette interaction qui se passe, il y a une communication, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi l'art-thérapie, donc tout ce qui est dessin, tout ce qui est musique, tout ce qui est peinture, donc ils arrivent franchement à faire des merveilles, bon, des merveilles. Peut-être que ce n'est pas des Picasso, voilà, mais par contre, vraiment, ils arrivent à s'exprimer, à nous dire des choses. Après, nous, on les interprète et on s'appuie justement parce que la réponse, c'est en eux. Donc, on s'appuie sur ça pour améliorer leur qualité de vie. Et
avec voilà. De la musique aussi.
De la musique, oui. La musique, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. Et la musique, la danse, l'expression corporelle, il y a la médiation par la poupée. Par la poupée, ça peut aussi apporter vraiment, ça peut réveiller en eux, en fait on voyage, voilà, je vais dire, c'est un voyage, et les TNM, c'est comme une boussole qui guide justement, qui nous guide dans ce voyage, quand ces personnes, elles sont désorientées, elles sont perdues, donc avec ces thérapies, ils arrivent à trouver, en fait, on les guide, ils arrivent à trouver des moments de lucidité. Et comme notre psychologue nous dit toujours lors des analyses de pratique, elle dit la mémoire, oui, la mémoire est effacée, mais elle est toujours là. Donc nous, on essaye un petit peu d'ouvrir des fenêtres pour qu'ils accèdent à des souvenirs. Et oui, ça peut se mesurer peut-être à des moments très courts dans la journée, mais c'est vraiment des moments magiques.
On a eu un petit exemple avec ce qui a été fait avec notre résident, avec l'arbre de vie. Tu peux raconter voilà. Peut-être aussi oui. Ce qui a été fait.
Oui, c'était dimanche passé, donc le 25 mars, c'était l'anniversaire d'un résident. Un résident qui est à un stade sévère de la maladie. Donc pour son anniversaire, donc justement comme j'ai dit, on travaille avec les dents. Donc j'ai vu avec son épouse, donc elle m'a donné en fait des photos de famille, même les photos de son chat. Voilà, donc avec le résident le jour J, donc via un support d'arbre de vie, donc on a fait en fait un petit peu un voyage de son histoire de vie, des moments de sa famille. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, on a collé ça dans sa chambre. Le lendemain, donc, il a appelé sa femme, sachant que ce résident même, d'habitude, il appelle sa femme chaque soir pour lui dire « Qu'est-ce que je fais là ? Je ne comprends pas. » Il est complètement désorienté. Là, il l'avait appelé pour lui dire « Mais là, je viens de m'apercevoir qu'il y a toute ma famille qui est autour de moi. C'est magnifique, ma chambre. » c'est beau là où je suis. C'est vraiment donc son épouse, elle était rassurée en fait. Donc elle avait compris que c'est l'effet de l'activité qu'on avait réalisée avec son mari. Et le lendemain, donc j'arrive, il me dit excusez-moi madame, venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Il me montre dans sa chambre. Il me montre justement le tableau avec l'arbre de vie. Il me dit, vous savez ce que j'ai fait hier avec ma petite fille ? Donc c'est tout ça, donc avec ma petite fille, on a travaillé sur notre famille, on a travaillé. Donc là, je me dis, mais il m'a pris pour sa petite fille. En fait, le but, c'était pas ça. Tellement intense, c'était tellement... Donc il m'a intégrée dans ce lien affectif.
Effectivement, c'est la proximité qu'il a ressentie avec notre aide-soignante, mais qu'au final, il avait ressenti que c'était avec sa petite fille. C'était un très beau moment pour lui, comme pour son épouse. Hein.
Voilà, et ce qui est encore, en fait, plus important encore, c'est quand il m'a dit, eh bien là, je vais me mettre à écrire, pourquoi pas, avec l'aide de ma petite fille, je vais écrire mon histoire de vie. Vous savez, j'étais ingénieure, voilà, je lui ai dit, oui, vous êtes toujours cette ingénieure, c'est votre identité.
Vous lui aviez réinsufflé de l'envie.
Donc là, on est parti sur ce projet-là avec lui.
Magnifique. Voilà. Et Najat, est-ce que tous les résidents... répondent aussi bien ou est-ce qu'à certains il faut plus de temps ou comment ça se passe?
Non, à vrai dire, ça dépend du stade de la maladie. Il y a des résidents avec qui on arrive à communiquer, il y a d'autres non. Donc, c'est très difficile, ouais, effectivement.
Ils viennent régulièrement, les résidents en hôpital, en résidence de jour?
Alors là, Zara, elle parle de... Parce que Zara se trouve, travaille dans une unité protégée. Ouais, donc l'accueil de jour, c'est une autre personne qui s'occupe de l'accueil de jour. Ouais.
Alors Zara intervient en unité protégée, effectivement. Donc on a une ASG qui intervient en accueil de jour. Et donc on a des résidents qui viennent au quotidien, du lundi au vendredi. Et parfois on peut ouvrir aussi les samedis et dimanches. Mais on n'a pas eu de demande, donc c'est plus du lundi au vendredi. Et on a 8 résidents au total.
Et donc les gens viennent... Une journée, deux journées dans la semaine?
Il y en a qui peuvent venir une journée par semaine, il y en a qui peuvent venir quatre fois par semaine, donc tout dépend du rythme, de la famille, de l'aidant et de ce dont ils ont besoin aussi.
Voilà. Et comment est-ce que vous incluez la famille justement? Est-ce qu'elle en profite elle-même pour avoir du répit ou est-ce qu'elle participe?
Exactement, alors la famille en profite pour avoir du répit, mais on n'hésite pas à les faire participer. Par exemple, quand il y a des événements, ils peuvent aussi participer. On les invite à participer, mais pas d'obligation. Le but, c'est qu'ils se reposent et qu'ils aient un moment de répit, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire en attendant que le résident est avec nous. Mais il y a beaucoup de familles qui sont très présentes, qui sont vraiment demandeuses, qui recherchent, enfin qui demandent à avoir des retours au quotidien sur ce qui se passe dans la journée, sur comment est-ce qu'il est possible de venir et de rester avec lui l'après-midi. Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de... nous, la maison de retraite est ouverte pour toutes les familles, les aidants, et donc ils sont les bienvenus. Voilà.
Pour vous faire rentrer la vie de la société comme nous l'ont présenté.
Exactement.
L'expérience, c'est aussi, en fait, vous êtes vraiment dans la même dynamique.
Bien sûr, c'est très important. La place de la famille est très importante dans l'accompagnement, dans la vie du résident et même pour nous, les soignants, les collaborateurs, pour tout le monde.
Pour les infirmières également,
bien sûr.
Ouais,
tout à fait.
Mettez bien dans la bouche.
Ouais. Par rapport à l'accueil de jour, il nous est arrivé même des fois, il y avait un monsieur qui était encore en activité, le fils, et il ne pouvait pas laisser son papa tout seul à la maison parce qu'il venait tout juste de perdre sa maman. Et donc du coup, on a pu le garder du matin jusqu'au soir. Donc le monsieur, il a dîné et c'était en fin de journée que le fils est venu chercher son papa. Et donc du coup, le fils, il était hyper, hyper rassuré, hyper content par rapport à cette prise en charge.
Vous êtes très souple au niveau de la prise en charge.
Oui. Effectivement, parce qu'on a fait l'an dernier, notre EHPAD a été désigné comme pour l'EHPAD territorial. Et donc, du coup, on recevait même les accueils en urgence quand il y a une hospitalisation de l'aidant. Donc, du coup, la personne démente, elle pouvait venir passer la nuit à la maison en attendant le retour de la personne aidante.
Ce que vous racontez, ça change beaucoup les représentations qu'on a de l'EHPAD triste.
Après, il y a aussi, en fait, c'est-à-dire pour l'aidant, c'est pas juste s'occuper du parent malade. Pour lui aussi, en fait, un soutien psychologique pour qu'on l'aide à accepter, en fait, parce que la plupart sont dans le déni, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est les aider aussi à comprendre ce qui se passe. On leur offre aussi un temps pour qu'ils s'expriment. On les soutient aussi.
Oui, parce que la plupart du temps, les aidants, ils sont dans le déni. L'an dernier, j'avais l'occasion de discuter avec une épouse qui, à chaque fois qu'elle venait me voir, elle avait les larmes aux yeux.
Ils ont besoin d'aide aussi.
Exactement. Mm. Et donc, j'étais obligée de parler de mon cas concret, parce que moi aussi, je me suis retrouvée confrontée à ce problème. Mon beau-frère aussi, qui était atteint de la démence de Cordé-Lévis, malheureusement, qui est décédé récemment. Et donc, j'étais obligée, pour apaiser ses souffrances, j'étais obligée de parler du cas de mon beau-frère. Et
partager vos expériences.
Juste pour lui montrer que vous n'êtes pas toute seule. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Et on est là, on doit se soutenir, on doit être solidaires entre nous.
Beaucoup d'humanité, en tout cas, dans vos propos. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous.